si vous levez, on va lire Apocalypse 16, versets 1 à 11. Apocalypse 16, versets 1 à 11. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, qui disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, Seigneur, toi qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis un autre du côté de l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le nom du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Je vais s'asseoir. Alors, on va faire une brève révision de ce qu'on avait vu dans notre première leçon, et on va terminer ce passage-là aujourd'hui. Je vous invite à continuer à prier, parce que je suis en train de faire le reste du chapitre à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. C'est intéressant parce que là, on tombe dans la sixième et dans la septième coupe. Et c'est Armageddon, c'est extraordinaire, un beau passage. Alors, demandez au Seigneur qu'il me soutienne, qu'il m'éclaire, qu'il prépare vos esprits aussi. Dans le fond, le Seigneur, il peut tout faire ça d'avance. Et si on n'arrête pas de prier, je suis sûr qu'on va avoir des bénédictions qui vont résulter de tout cela. Alors, ne l'oublions pas. Chaque jour, demandons au Seigneur son aide, son soutien, son éclairage, sa lumière. Alors, on avait donné comme titre au message « Les sept anges déversent les cinq premières coupes de la colère de Dieu ». Alors, le passage qu'on voit aujourd'hui, on voit que Dieu avait donné une commande à des anges de déverser les cinq premières coupes sur les hommes, et on sait que le gouvernement, on avait vu dans les passages précédents, que les hommes avaient réussi à établir le gouvernement mondial, la religion mondiale, et qu'il y avait eu un début d'adoration de toutes ces affaires-là. Et là, le Seigneur, il décide que la masse tombe, et là, les jugements arrivent. Alors, je rappelle juste une observation de William Hendrickson qui a écrit un commentaire sur le livre de l'Apocalypse. Alors, on se demande tout le temps dans quelle période qu'on se trouve quand on lit ces passages-là. Je vais relire sa réponse. Il dit, car si la vision des coupes s'applique à toute l'ère chrétienne, il faut comprendre que la vision des coupes, c'est toute l'ère chrétienne. Donc, l'ère chrétienne, c'est une longue période. Autrement dit, ça parle de toute la période de l'ère chrétienne, mais, ça dit, elle concerne plus particulièrement le jour du jugement et ce qui le précède immédiatement. Moi, je pense qu'on est rendu pas mal là à ma compréhension de la situation. Alors, on avait rappelé aussi dans notre leçon précédente que le Seigneur utilise les plaies d'Égypte pour faire un parallèle avec ce qui va se passer à ce moment-là. Les plaies d'Égypte, on se souvient, c'est que le Seigneur avait son peuple qui était en Égypte et il avait voulu, il avait dit à Moïse, dit à Pharaon qu'il laisse mon peuple sortir. Et il s'était obstiné. On avait vu qu'il s'était obstiné, obstination sur obstination. Et c'est pas un hasard que le Seigneur choisit ces passages-là pour nous parler de ce qu'il est en train de faire aussi. Il est en train de nous faire sortir aussi de l'Égypte, le monde. Alors, il utilise les punitions, les jugements que le Seigneur avait envoyés pour que Pharaon donne son autorisation pour que le peuple de Dieu sorte. Pas pour rien que le Seigneur les introduit dans le livre de l'Apocalypse. C'est intéressant de voir que le Seigneur utilise ça. Je vous avais donné, ceux qui ont le tableau, les 10 plaies d'Égypte. Vous avez les 10 plaies qui sont mentionnées avec les passages dans lesquels vous allez retrouver chacune des références. L'autre question qu'on s'était posée, est-ce que ce passage doit être interprété littéralement ou symboliquement? Très important parce que si on interprète ça littéralement, ça veut dire les fleuves, les lacs, les rivières, tout. Alors, il faut répondre à ça, sinon on comprend mal le passage. Alors encore, Herman Oxema, que je me sers de... Lui, il répond à cette question-là. Il dit, nous ne devons pas tomber dans l'ornière de la fausse spiritualisation et de l'allégorisation du texte. Comme pour de nombreuses parties du livre de l'Apocalypse, de même pour cette partie, cela a été fait par beaucoup. Autrement dit, il est en train de dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont allégorisé ou spiritualisé. Il dit qu'il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. Il dit, nous ne devons rien prendre au sens spirituel, à moins que le livre ne l'indique clairement. Puis un petit peu plus loin, il dit en d'autres termes, nous prenons cette partie au sens littéral du mot. Alors, il faut vraiment voir comment lui interprète ça. Et à quelque part, je pense qu'on n'a pas le choix quand on étudie un livre comme l'Apocalypse, il y a tellement d'interprétations différentes venant de différentes écoles. Moi, je trouve que la façon de suivre, c'est d'en prendre un qu'on croit qui est le plus proche de la vérité, à notre compréhension, à notre expérience, à notre connaissance, et de suivre. Parce qu'il y a une logique là-dedans, puis si on s'éloigne de la logique, il y a un temps qu'on ne comprend plus rien. Alors, il donne un résumé de la signification du passage selon lui. Par conséquent, nous arrivons à la conclusion que les fléaux sont des fléaux affectant la nature dans ses diverses sphères, qu'ils sont universels dans leur caractère, ne laissant aucune exception, et que seuls les adorateurs de la bête seront troublés par eux. Cela indique également que ces coupes sont versées jusqu'à la toute fin des temps. Il y a une question qui m'a été posée la semaine dernière. C'est Jean qui est venu me voir après lui poser la question. Ça dit, il a l'air vouloir dire ici que les fléaux qui vont arriver vont toucher uniquement les inconvertis. Il dit, ça implique-tu que le Seigneur est venu chercher les siens? Que nous, on les subira pas. J'avoue que j'ai pas eu le temps d'aller fouiller ça, mais je vais dire la question et on va revenir là-dessus. Je vais aller fouiller encore plus et je vais vous donner ce que je crois. Est-ce que quand ça va arriver, que le Seigneur va déverser toutes ces malédictions-là sur les habitants de la terre, est-ce que les croyants vont être encore là ou parce que si la compréhension qu'on a, nous, c'est que le retour du Seigneur et l'enlèvement, c'est deux événements qui sont en même temps. Autrement dit, quand le Seigneur revient, c'est là qu'il enlève son Église. On ne croit pas à l'interprétation dispensationaliste qui dit qu'il enlève son Église, après ça, il y a une tribulation de 7 ans, puis après ça, c'est pas ça. Alors, si on veut être logique, alors, si le retour du Seigneur se fait en même temps que l'enlèvement, est-ce que l'enlèvement a eu lieu lorsque ces événements-là arrivent? Ça peut arriver que des fois que le texte ne le dise pas. Quand le texte ne le dit pas, puis les commentateurs, on dirait qu'ils ne savent pas trop comment interpréter ça non plus, parce que lui, il dit bien ici, cela indique que ces coupes seront versées. Il dit, ne laissant aucune exception et que seuls les adorateurs de la bête seront troublés par eux. Donc, les cinq premières coupes. Alors, il y a des questions difficiles dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour ça que je vous demande de continuer à prier, parce que c'est difficile. Alors, j'avais fait un tableau aussi avec un parallélisme entre... On sait qu'il y a trois grandes choses dans les Écritures. Hein, dans le livre de l'Apocalypse, tu as les sceaux, les sept sceaux. Ensuite, tu as les trompettes. Normalement, une trompette, c'est un avertissement. Et donc, il y a les sceaux. Le Seigneur brise, autrement dit, le décret qui fait que les choses se réalisent, s'accomplissent. Après ça, quand les hommes vont trop loin dans le péché, le Seigneur avertit. Puis quand il n'y a pas une réponse des pécheurs à l'avertissement de Dieu, ce qui arrive, c'est que là, Dieu envoie ses coupes. Ses coupes, c'est ses jugements. Alors, on voit les cinq premières, c'est un peu effrayant. Alors, la colère de Dieu par les cinq plaies est ordonnée. J'entendis une grande voix venant du temple qui disait aux sept anges, « Allez, versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. » Comme je vous disais dans la leçon précédente, le dictionnaire Robert donne plusieurs sens au verbe « ordonner ». De ces différents sens, nous en retenons deux qui s'arriment bien avec la signification générale du verset. Donc, il y a deux sens au mot « ordonner ». C'est celui de disposer, de mettre dans un certain ordre, d'arranger. Quand on dit « ordonner quelque chose », alors, ça veut dire que le Seigneur va envoyer ses jugements. Il va y avoir un ordre là-dedans. Alors, moi, je pense que les deux sens sont là, dans le sens d'ordonner. Le premier jugement arrive par hasard. À qui ça arrive par hasard non plus? Tout ça, il y a une ordonnation divine. C'est intéressant de le voir. La deuxième, c'est celui de commander, de prescrire un ordre. Les deux sont là. Alors, il va commander les choses aux anges, mais ce qui va arriver sur la terre, le déroulement, l'ordre, va être différent. C'est intéressant de voir le mot « ordonner » dans ce sens-là. Il commande aux anges, puis en même temps, les anges ne font pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a un ordre. Le premier ange a fait ci, le deuxième, il a attendu que le premier... Alors, c'est ça qui est intéressant de remarquer. Verset 2 à 7. On a vu, la première plaie est annoncée dans le verset 2. Ça dit, « Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin dangereux. » Alors, jusqu'à un certain point, ça répond à la question que tu posais, parce que ça dit que les gens qui vont avoir... Cette coupe-là qui va être déversée sur eux, c'est des gens qui avaient la marque de la bête. Donc, si c'est des gens qui avaient la marque de la bête, ça exclut la possibilité qu'il puisse y avoir des chrétiens à l'intérieur de ça. Il dit, ceux qui adoraient, donc les deux choses, la marque de la bête et ceux qui adoraient, furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. Alors, on a vu que ces ulcères malins et dangereux-là, sur les idolâtres, qui correspondaient à la sixième plaie d'Égypte. La deuxième plaie, c'est la coupe qui est versée sur les eaux, versets 3 à 7. Donc, il y a plusieurs choses qui sont mentionnées concernant les eaux. Dans le verset 3, c'est sur la mer. Alors, on sait, la mer, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, tous les océans. Le second ange, second ange versa sa coupe dans la mer, qui devint comme le sang d'un mort, et tout ce qui avait vie, dans la mer, mourut. Imaginez un océan comme l'Atlantique, le Pacifique, tous les océans, où que Dieu permet que tout ce qu'il y a dans l'eau meure. Les baleines, les... Imaginez-vous ce que ça va donner après un certain temps. Alors, il dit, ça ne sentira pas bon, en tout cas. Comme le sang d'un mort, et tout ce qui avait vie dans la mer mourut. Alors, des fois, le Seigneur se sert de la mer comme d'un instrument de destruction. On sait que les hommes se sont souvent, tout le temps en fait, se sont servis de la mer comme un puits de nourriture, les poissons, et aussi pour le transport maritime. T'sais. Mais à partir du moment ou qu'une affaire comme ça arriverait sur la mer, que tout ce qu'il y a dans la mer mourrait. Je pense que le transport maritime... Alors, si le transport maritime n'est plus là, puis que toi, tu n'as plus ta source d'approvisionnement des poissons, tout est mort, imaginez-vous qu'est-ce que ça peut donner en termes de vie sur la Terre à cette époque-là. Dans le verset 4 à 7, on est encore dans le domaine des eaux, on est dans le domaine des fleuves et des sources d'eau. Verset 4 à 7, « Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, Seigneur, qui est et qui était et qui sera saint, parce que tu as exercé ses jugements. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire, et ils le méritent. » Et j'en entendis un autre du côté de l'autel qui disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Encore ici, dans ce jugement-là, il ne semble pas que ce soit un jugement qui s'adresse, qu'il y ait des chrétiens qui goûtent à ça non plus. Là. Alors, c'est un jugement qui va être terrible, qui va affecter l'humanité entière. On était rendu là. On était rendu au verset 8 et 9. On avait vu que le Seigneur, dans la quatrième coupe, quatrième ange, c'est quelque chose qui va affecter le soleil. Le soleil, c'est pas un petit morceau non plus, là. Sans le soleil, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chaleur, il y a plein de choses. C'est la vie. Versets 8 et 9. « Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a puissance sur ses plaies, et ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. » Et il y a un aspect de l'être humain ici qui nous fait frémir de peur. Même dans ses jugements les plus sévères, les plus terribles, ils prennent conscience de sa source, de où ça vient, par qui c'est envoyé, puis au lieu de demander pardon à Dieu pour leur péché, d'obtenir un répit, ils blasphèment Dieu. Il y a quelque chose de... Faut dire ici, là, ça nous révèle, si quelqu'un a de la misère avec la doctrine de la dépravité, de la corruption du cœur humain, il veut salir ces passages-là, il va en avoir plein son voyage, comme on dit. Alors, les hommes brûlés par le soleil, verset 8, la chaleur du soleil, comment le Seigneur va le faire, j'en ai aucune idée, ça va être augmenté considérablement, au point que la vie sur la terre devienne presque insoutenable. Quand tu dis que, ben, dans certains pays, je peux juste penser la missionnaire qu'on soutient ici, à les degrés qu'il fait là-bas, là, une chandelle qui fond, et même pas à la chaleur, elle est juste à la chaleur de ambiance, puis qu'à fond. Si quelqu'un trouve ça soutenable, ben, je souhaite bonne chance, mais moi, j'aimerais vraiment pas être dans ce pays-là. Mais le texte nous dit que ça va être encore pire que ça, ça va les brûler. Parce que tu peux arriver que tu sois très mal à l'aise à cause de la chaleur, mais ça te brûle pas nécessairement. C'est sûr que si tu restes au soleil longtemps, mais c'est ça que ça dit. Alors, les hommes méchants vont prendre conscience que c'est Dieu lui-même qui leur envoie ce terrible fléau. Bien entendu, on s'attendrait à ce que leur réponse à ce que Dieu envoie, ce soit la confession de leur péché, la repentance. Qu'ils prennent conscience, Dieu, on t'a offensé, on n'est pas dans tes voies, tu nous juges et tu fais bien et on te demande pardon et on implore ta miséricorde. Du tout. Les hommes refusent de s'humilier et refusent d'abandonner leur péché. Au contraire, cela les amène à blasphémer le nom de Dieu et à s'enraciner dans leur obstination et leur refus de donner gloire au Seigneur. Nous avons ici la démonstration très éloquente du degré de corruption du cœur humain et du fait que la souffrance elle-même n'a pas le pouvoir d'amener les pécheurs à la repentance et à la conversion. Et pour dire, on voit que vers la fin des temps, le Seigneur va envoyer de plus en plus de jugements, de plus en plus sévères, de plus en plus qui vont affecter leur vie quotidienne, leur santé, tout. Et encore là, faut-tu que tu sois enraciné dans le péché? Faut-tu que tu haïsses Dieu? Tu sais, la Bible dit que l'être humain est inimitié contre Dieu. Quand tu essaies de faire dire à quelqu'un qui haït Dieu, tu dis, oh, tu vas arriver à faire dire ça à un homme. Tu vas dire, OK, tu es pécheur. Tu vas dire, la Bible dit que tu haïs Dieu. Oh non, je n'ai pas Dieu, moi. Ils vont tout le temps dire ça. Pourtant, la Bible est claire. Regarde ce qu'ils font. Quand, même dans les jugements les plus sévères, même aujourd'hui, autour de nous, quand on essaie d'annoncer le salut, même si le Seigneur les enverrait les pires catastrophes qui pourraient arriver dans leur vie, sur leur santé, sur leur bien, peu importe ce que Dieu leur envoyait, ça dit que la souffrance n'amènera pas un homme. Ça nous démontre jusqu'à quel point les êtres humains sont enracinés dans leur péché. Ils aiment leur péché et ils détestent Dieu. C'est ça la vraie vérité. OK, alors on comprend que cette intense chaleur aura des conséquences sur les hommes, bien entendu. On parle des brûlés, donc leur santé. Les récoltes, si ça brûle les hommes, ça va sûrement brûler les récoltes. Tout va devenir sec, plus rien. Il va y avoir des sécheresses un peu partout sur la terre. Ça va avoir même des influences sur ce qui reste d'eau. Et ça va avoir, bien sûr, des conséquences énormes sur toutes les activités économiques de la terre. On se rend compte à quel point le Seigneur est sévère. Moi, des fois, on dit, considère la bonté, la sévérité de Dieu. La bonté, si on est ouvert à ça. Parler de l'amour de Dieu, si on est ouvert à ça. Parle de la sévérité de Dieu, tu vas voir que c'est pas aussi bien reçu par les hommes en général. Les seuls qui vont regarde ici, il y en a qui disent, « Tu es juste, Seigneur, d'envoyer cette plaie-là parce qu'il le mérite. » Il y a juste un chrétien qui est capable de dire « Amen » à des jugements aussi sévères que ça. Parce qu'on sait que Dieu, quand il envoie un jugement, c'est parce qu'il est temps et que toutes les chances et tous les avertissements qu'il avait pu donner aux hommes, ils ont tous été donnés. Et le dernier point, c'est un point encourageant, le troisième point, la colère de Dieu par les cinq plaies est orientée. Verset 10 et 11, pourquoi orientée? C'est parce que là, à un moment donné, ça a commencé par la mer, ça a commencé, et c'est tout extérieur. Mais à un moment donné, la colère de Dieu va se tourner contre le trône de Satan. Autrement dit, là où il exerce son pouvoir, Dieu, c'est là qu'il va aller juger, il va mettre le désordre. Et les gens qui ont adoré ne croiront plus au système, ils vont se retourner contre Satan. Alors c'est ça que ça dit, le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint ténébreux. Il est déjà ténébreux, mais fort probablement que ça va affecter les communications, ça va affecter qu'il n'y a plus personne qui va croire à leurs mensonges. Tu sais, Dieu va permettre que ça soit tellement les ténèbres que même dans les ténèbres, ceux qui sont dedans pourront plus communiquer. Ça va être... Dieu va vraiment juger sévèrement. Son royaume devint ténébreux, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ça vous est déjà arrivé, vous autres, de vous mordre la langue de douleur? Tellement ça fait mal, tu te mords la langue de douleur. Ça veut dire qu'ici, ça va être intense. Ça va être intense. Et à cause de leur douleur et de leur plaie, ils ont blasphémé. L'autre, ça a été encore le soleil. Mais là, après ça, ils tombent sur le royaume du malin. Et ceux qui sont dans le royaume du malin, quand ils vont voir que Dieu juge leur péché et qu'il fait en sorte que le royaume du malin lui-même devient désordre complet, parce qu'il faut qu'il y ait de l'ordre là-dedans, c'est comme une armée, hein, de grand chef avec ses lieutenants puis toute son armée. Mais à partir du moment où Dieu met la ténèbre complète à l'intérieur de ça, même eux autres, ça ne marchera plus. Alors, la cinquième plaie, c'est vraiment le trône de la bête. Ça rappelle la neuvième plaie d'Égypte. On leur lit le passage dans Exode, chapitre 10, versets 21-23. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers les cieux, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, tel qu'on puisse les toucher. » Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience-là, de rentrer dans un endroit où il fait tellement noir qu'il n'y a plus aucune lumière. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, juste une fois. Tu rentres, là, puis tu fermes la porte, puis il n'y a plus, même pas une petite lumière qui rentre en dessous de la porte, rien, c'est noir, comme dit le texte, tellement noir qu'on dirait que tu peux toucher. Ça, en tout cas, ça va être épeurant. Il a étant ta main vers les cieux, qu'il y ait des ténèbres sur tout le pays d'Égypte, tel qu'on puisse les toucher. Moïse étendit donc sa main vers les cieux, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait plus l'un l'autre, et nul ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais pour tous les enfants d'Israël, il y eut de la lumière dans le lieu de leurs ténèbres, de leur demeure. Alors, fort probablement que la réponse à ta question, c'est que s'il y a des chrétiens qui sont encore sur la terre, le Seigneur va permettre qu'eux, il y ait quelque chose qui fonctionne dans leur vie, que les choses aillent bien. Ça ne le dit pas nécessairement, là, mais c'est comme une déduction. Alors, Dieu avait envoyé cette plaie-là sur le pays de Pharaon pour la simple raison que lui refusait de laisser partir le peuple d'Israël. On sait par le texte des Écritures d'Exode que Israël était sévèrement opprimé. Tout le pays d'Égypte adorait de faux dieux. Ils adoraient par exemple le dieu soleil qui s'appelait Ra. R-A, c'est complexe. Eux avaient un dieu qui supposait que c'était un dieu soleil. Il s'appelait Ra. Le Seigneur provoqua des ténèbres sur tout le pays pour démontrer aux Égyptiens la faiblesse et la puissance de leur dieu Ra. Mantou, c'est en train de dire dans un pays comme l'Égypte qui était dominé par le mal, il y avait un dieu, eux autres, qui appelait Dieu Soleil. Là, Dieu envoie dans le pays la totalité des ténèbres. Là, ça, tu as envie de dire au Pharaon, ton Dieu Soleil, là, il est où? Alors, c'est ça, le Seigneur voulait montrer. Alors, la faiblesse et l'impuissance de leur Dieu Ra. Et, bien sûr, cette obscurité profonde ébranla l'Égypte. Toute la vie du pays avait été paralysée parce que sans lumière. À l'époque de Jean, le trône de Satan était, selon l'Apocalypse, était situé à Pergame, qui était le centre du gouvernement romain et du culte impérial. On relit le passage dans Apocalypse 2, versets 12 et 13. « Écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et le lieu où tu habites, où Satan a son trône, et tu retiens mon nom, et tu n'as point renié ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous où Satan habite. » Alors, c'est, autrement dit, là où Dieu va envoyer, c'est le quartier général. Moi, j'ai été dans l'armée, je sais que dans tout camp militaire, il y a toujours un quartier général. C'est là que tout se décide. Les officiers sont là, les commandants sont là. Ben, dans le royaume du malin, le Seigneur va faire en sorte que sont dans les ténèbres spirituelles, mais là, ça va être les... Autrement dit, le mot ténèbres veut dire qu'ils ne se comprendront plus entre eux autres, ils ne seront plus capables de faire avancer leur cause, comme on dit. Alors, la cinquième coupe est donc dirigée vers les dirigeants. Donc, Satan lui-même, c'est lui le grand maître. Et l'habilité à séduire les hommes va être terminée. Et le Seigneur sème la confusion la plus totale dans le royaume de Satan. La gloire de son royaume décline. Autrement dit, on avait vu que les hommes étaient venus un temps qui avaient cru qu'ils amenaient la paix sur la terre, que tous les problèmes de la terre seraient réglés. Ici, on va arriver à un point où les hommes, ils créeront plus ces menteries. Ça ne marchera plus sur l'affaire, comme on dit. Son autorité va être questionnée. Vous avez-vous, quand il y a eu la victoire dans Apocalypse 13, qu'est-ce que ça disait? Personne. Qui peut aller contre le royaume de la bête? Et là, on va commencer à questionner son autorité. « Ouais, mais là, ça ne marche pas, on va faire. » Alors, même les gens qui sont dans les ténèbres vont se révolter. Alors, l'autorité va être questionnée, son pouvoir va rétrécir. Bien entendu, si quelqu'un qui est un maître comme Satan et ses lieutenants, puis la populace, même s'ils sont dans les ténèbres spirituelles, ils vont commencer à plus croire tout ça. Pas vrai ton affaire, j'ai rien qui marche, tout ce que tu nous as dit, pas rien. Alors qu'est-ce que ça va faire, son pouvoir va rétrécir. Et aussi son apparence va cesser de provoquer la confiance et l'admiration. On se souvient qu'il y avait, si on relirait chapitre 13, les gens avaient une confiance absolue dans tout ce qu'ils avaient dit, dans tout ce qu'ils voulaient installer, avaient une confiance absolue. Là, ça va être fini. Et aussi sa divinité qui va être mise en doute. Lui, il va se prétendre Dieu, il va vouloir être adoré. Mais là, le monde va se rendre compte, ben là, il se dit Dieu, mais ça ne marche pas son affaire, là. Alors, c'est le royaume, c'est Dieu qui envoie son jugement sur le royaume de Satan lui-même. Alors, l'écroulement s'approche à grands pas. Et c'est là qu'on tombe à partir du verset 12, où on voit le fameux fleuve Euphrate. Et après ça, on voit le grand jugement général qui se prépare, Armageddon. C'est un super de beau passage, parce que là, le Seigneur, c'est comme le point final. Puis il y a beaucoup de monde qui croit qu'on est proche de ça. Proche. Peut-être quelques années, peut-être quelques décennies, peut-être. Moi, je pense pas que c'est quelques décennies, je pense qu'on est plus proche que ça. En tout cas, c'est mon avis. Alors, la cinquième coupe, et verset 10. Alors, Satan a voulu se présenter aux hommes sous un faux jour, celui de la lumière. Il a voulu se présenter au monde comme étant la lumière, et son nom, Lucifer. Tous ceux qui adorent Lucifer actuellement, parce que son nom signifie porteur de lumière. Il se prétend lumière, et Dieu va lui montrer qu'il n'y a rien de lumière dans tout ce qu'il est. Alors le Seigneur veut que les sujets de son royaume le voient pour ce qu'il est réellement. Les sujets du royaume de Satan vont sentir leur perdition et pressentir leur destinée éternelle dans les ténèbres de l'enfer. Je ne sais pas si vous imaginez les gens qui ont suivi le malin, là, tout ça, là. Ils ont adoré, ils se sont laissés la marque de la bête et tout ça. Et là, à un moment donné, ils voient que c'est fini, que ça ne marchera plus. Là, ils sentent que le jugement final approche. On peut-tu imaginer l'état d'esprit de ces gens-là? Ils doivent être terrorisés. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 17, le Seigneur parle. Il dit, ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par un tourbillon, et l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. En anglais, c'est blackness of darkness. Ça ne peut pas être plus noir que ça. Blackness, c'est déjà noir, darkness. The blackness of darkness. Ici, ils ont traduit ça par l'obscurité des ténèbres. L'obscurité leur est réservée, pas pour un jour, pour l'éternité. Et on a Jude, chapitre 1, verset 13. Ce sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'humain. Encore la même chose, blackness of darkness, qui est réservée pour l'éternité. Et on a, dans Matthieu, on a aussi un passage où le Seigneur utilise l'image des ténèbres du dehors. Il dit dans Matthieu 25, verset 30, « Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Et je pense que le verset 11 vient vraiment nous enseigner beaucoup sur le cœur de l'homme. Et à cause de leur douleur et de leur plaie, ils blasphémèrent le Dieu du ciel et ils ne se repentirent point de leurs œuvres. Dieu veut manifester sa souveraineté, sa justice et son omnipotence par la désintégration du royaume de l'Antichrist. Ça va avoir l'air d'avoir réussi à un moment donné, qu'on a vu dans les chapitres précédents. Là, Dieu, il va détruire tout ça. Vu que ça vaut rien, on détruit ça. Alors, le Seigneur veut que nous comprenions que les pécheurs rebelles et impénitents sont incorrigibles. Vous avez déjà connu des gens, des fois, dans votre vie, que vous les avez vus aller, puis vous dites, il n'y a rien à faire, il ne changera jamais, il ne corrigera jamais. Il y en a, c'est le cas de le dire quand ils observent dans leur vie. Là. Mais je pense que c'est un fait pour tous les êtres humains pécheurs qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Ce n'est pas la douleur qui va les emmener à la repentance et à la volonté de s'approcher de Dieu et à confesser leurs péchés. Quelques applications de l'ensemble du passage de Apocalypse 16, versets 1 à 11. La première, le Seigneur est infini dans chacun de ses attributs. Son omniscience, son omnipotence, son omniprésence. Personne ne va pouvoir dire, comment tu peux nous juger de ça? Il sait tout. Il a tout vu, même ce qui se passe dans ta tête. Il n'y a pas une parole que tu as dit qui lui a échappé. Il n'y a pas un geste que tu as fait qui lui a échappé. Et plus que ça, parce que des fois, on regarde quelqu'un de l'extérieur, on ne voit pas un péché nécessairement par sa bouche ou par ses actions, mais les péchés, les omissions, on est porté à penser qu'ils sont moins graves, eux autres. Tu sais, dans la théologie, ils appellent ça les péchés de commission puis les péchés d'omission. Tout péché... Tout commandement que Dieu donne dans les Écritures, peu importe partout dans les Écritures, qu'on n'accomplit pas, auquel on n'obéit pas à la perfection, c'est un péché aussi grave que si tu l'as commis. Ça, moi le premier. Quand Dieu nous donne des ordres des Écritures, tous les verbes commencent à EZ, là. C'est des commandements que Dieu te donne. Puis on ne les fait pas. On pense que ce n'est pas grave. Mais c'est très grave. Alors, Dieu sait, et par son omniscience, et il est tout puissant, et il est présent partout. Il n'y a pas un être humain, peu importe l'endroit où il a fait son péché. Les hommes ont tendance à se creuser des sous-terres pour ne pas être vu personne, puis ils pensent qu'à cause qu'ils sont sous-terres, que personne ne les voit. Dieu voit partout. Alors, c'est intéressant. Son amour est infini aussi, sa sagesse est infinie, sa miséricorde, sa justice. On est chanceux que sa grâce soit infinie aussi. Moi, quand je regarde ma propre vie, là, je vous l'ai déjà dit, j'étais parti pour faire un bandit. Puis le Seigneur est venu me chercher dans ma misère, puis il m'a accordé sa grâce et le pardon de tous mes péchés. On s'habitue au mot grâce, vous savez, mais on ne devrait pas. Sa grâce, son éternité, son immuabilité, sa sainteté, sa bonté, son équité, sa vérité. Donc tout ça, c'est infini. Lorsqu'il agit dans la vie des hommes et sur la vie des hommes, toutes ses qualités se manifestent avec éclat. Quand on regarde ces passages-là, quelle qualité de Dieu qu'on voit. Et sévère, comme ça peut être sa justice. Rappelons-nous constamment de ces choses lorsque nous cherchons à comprendre les jugements de Dieu. Deuxièmement, Dieu utilise très sagement la rétribution comme instrument. Il y aurait des beaux sermons à faire sur le thème de la rétribution. Le Seigneur se sert, disons, quand quelqu'un est bien orgueilleux, ben, il va l'humilier. T'sais, le Seigneur utilise le moyen. Autrement dit, plus tu pratiques un péché, plus il va venir te corriger par le même péché. Pas par nécessairement le même péché, mais par un moyen qui va corriger le péché, qui devait être corrigé, mais souvent, ça change rien. Alors, si le mot « rétribution » s'applique parfois à la récompense obtenue par celui qui fait le bien, il s'applique d'ordinaire au jugement qu'encourt le méchant. Punition temporelle et terrestre et punition éternelle. Hein, pour dire, des fois, quelqu'un fait des péchés dans sa vie, puis si tu lui dis ça, ben là, mon ami, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, puis si tu ne te repens pas, tu t'en vas là, en enfer. Là. Puis lui, il continue allègrement. Puis au lieu de dire, ben là, je vais essayer de demander à Dieu de me donner une grâce pour que j'arrête, que j'en fasse de moins en moins, parce que plus tu vas en enfer, plus ta punition va être grave. On dirait que ça leur passe par une oreille, ça sort par l'autre, ça arrive, ça ne change rien. Alors, à sa deuxième venue, le Seigneur viendra rendre à chacun selon ses œuvres et sa manière de vivre. Prions le Seigneur de nous donner la véritable repentance et le vouloir et le faire nécessaire. Prions sans cesse pour le salut des pécheurs. On en a tous, dans nos familles, dans nos voisins, nos amis, nos collègues de travail, des gens qui ne sont pas sauvés. Surtout, ne lâchons pas à demander grâce à Dieu pour eux. N'ayons pas peur d'aller au trône de la grâce et de supplier. Si le Seigneur nous donnait de comprendre l'endroit où ils s'en vont, je pense qu'on ferait du genou pas mal plus. Troisième application, ne nous laissons jamais impressionner par les apparentes victoires de Satan sur le monde et dans nos propres vies. Celles-ci sont toujours trompeuses et éphémères. Par grâce, nous avons obtenu le pouvoir d'une vie de victoire. Notre destination finale est assurée. Glorifions le Seigneur pour son amour pour nous, sa protection, sa direction infiniment sage de nos vies, de tous les jours. Que la glorieuse personne de Jésus-Christ soit bénie, louée et adorée éternellement. Amen.